Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Titouan ce matin pour la matinale tech de Frandroid. Alors attendez, j'ai un mauvais focus. Vous me dites, normalement. Voilà, là je devrais être plus net. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout baigne? Est-ce que ce nouvel horaire de 10h vous va bien? Non, je rigole, je suis juste en retard. J'ai eu un petit souci de métro. Voilà, ça y est, normalement, je suis plus merci beaucoup, Aximilitech. On m'a montré la dernière fois comment ne pas être flou. En fait, c'est tout simple. C'est comme sur n'importe quel appareil photo, il y a une boucle pour régler le focus. Voilà, je pensais que c'était un autofocus. En fait, non, si je dis pas de bêtises. Bonjour, bah, du coup, Aximilitech. Merci d'être là. Bonjour, MyGameFR. Bienvenue. Je crois qu'on s'est jamais vu en live. N'hésite pas. Tu es deuxième, d'accord. J'avais pas compris deuxième. Et oui, tout à fait, deuxième à participer. Y a pas encore trop les habitués dans le coin. MyGame, c'est pas la première fois que tu interviens, j'imagine. J'avoue que je te découvre. Alors il y a eu quelques abos. Non, il y a eu un abo pendant qu'on n'était pas là. C'est Matt1692. N'hésite pas à te présenter si tu es dans le coin, si tu as envie d'interagir. Premier live avec toi. Il me semble bien. Il me semble bien. Bah écoute, voilà, si tu veux me dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, ton téléphone, tout ça, je suis évidemment preneur, toujours sympa. Aximilitech, on a maintenant une petite idée un peu plus précise de qui il est, étant donné qu'il a fait l'objet d'un article sur Frandroid. Pas parce que, grâce à sa passion de Samsung, je crois que je peux le dire comme ça, j'essayais de... Je sais pas si c'est une passion, parce que l'article explique justement que tu es tombé dans Samsung un petit peu malgré toi. Bref, très bon article sur Frandroid, je sais pas comment dire, ce qu'on peut dire un fan de Samsung, qui ne l'est pas. C'est marrant, en tout cas j'ai bien aimé cet article. Je vais le mettre, Samsung, 8 produits. C'est une nouvelle, des nouveaux papiers qu'on essaie de faire avec... c'est Omar qui a lancé ça, des papiers un peu plus témoignages sur les usages de la tech. Passion me semble fort, mais simplement autour de mon écosystème de Samsung. Ok. Tu es YouTuber gaming, d'accord, tu es S20 et feu, très bien. Et tu as 59 abonnés, ok. Salut Jinta, enchanté MyGame d'ailleurs, pardon. Salut Jinta. J'espère que tu vas bien également, merci beaucoup, ça va très très bien ici. En ce beau mercredi, j'ai l'impression qu'on est mardi, je sais pas vous. Je retrouve plus l'article avec Aximilitech, je sais plus comment il s'appelle. Et donc on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc pareil, si vous avez des... J'en profite pour vous dire... si vous avez des anecdotes, des trucs à raconter sur votre rapport à la tech, etc. N'hésitez pas à vous rendre sur le Discord de Frandroid. Je sais pas si j'ai le lien sous la main... N'hésitez pas à vous rendre sur le Discord de Frandroid où on discute et où régulièrement on va vous demander désormais un petit peu si vous avez des choses à raconter. Alors on pose une question précise et puis après vous y répondez si vous avez quelque chose à raconter en rapport avec ça. Ça peut éventuellement faire des articles sympas. Est-ce que j'ai l'invite? Bon bref, le Discord de Frandroid, il est assez facile à trouver. J'ai peur de pas mettre le bon lien là, donc mais voilà. On est mercredi et il fait froid. Oh ça va, je trouvais que ça allait. Mieux qu'hier. Hier je suis rentré sous la pluie en vélo. Ce matin j'ai pris le métro, mais du coup je suis en retard. Voilà. Je suis famous, les gens, n'hésitez pas à me DM, je fais 15 euros. Jinta qui dit il fait beau. On a un débat dans le chat sur le temps qu'il fait. Je pense que c'est signe qu'il est temps d'attaquer les news. Je vous propose de démarrer avec ça. Je suis un peu curieux d'avoir votre avis. Donc ça a été titré d'une manière, on va dire, assez... comment dirais-je, assez négatif, quoi. Enfin, en gros, c'est Geoffroy qui a fait l'article, si je m'abuse, qui n'aime pas trop cette fonctionnalité. Le Discord, merci beaucoup, Cassie. Et moi, je suis plutôt enthousiaste vis-à-vis de ce genre de choses. Alors peut-être parce que j'ai pas connu la grande époque. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, c'est tout simplement Samsung qui rajoute son navigateur sur les montres connectées. Samsung Internet, je sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est ça le nom. Et c'est quelque chose qui était à la mode il y a quelques années sur les montres connectées et qui a été arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'est pas vraiment ce que les gens voulaient faire sur une montre connectée, forcément avec un petit écran comme ça. J'avoue que moi, c'est plutôt un truc qui m'éclate parce que je me dis le nombre de trucs que ça ouvre en fait. Dès que t'as un navigateur sur un appareil, ça t'ouvre beaucoup beaucoup d'usages intéressants, un peu cassés bien sûr. Et puis surtout, voilà, moi je me dis, moi dans l'optique, tu vois, une Galaxy Watch 5 par exemple, Watch 6 quand elle sortira, ça peut être cool si tu l'as en 4G, tu pars faire ta vie et t'as ton smartphone au poignet quoi. Enfin moi c'est un truc qui m'éclate. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez un... Ah, on a deux liens pour le Discord. C'est vraiment, c'est pas le même. Je sais pas trop comment ça marche. J'avoue que vu que j'ai pas, je suis pas sur mon PC à moi, donc je voulais pas faire de bêtises. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. On discute bah, tout le temps de. Il y a beaucoup de discussions assez sympas, sur un peu sur la même ambiance que qu'ici, je trouve. Hein, je veux dire, c'est vraiment assez bienveillant, assez cool. Tu ne peux pas non plus jouer à Fortnite dessus. Bah, je me demande, parce que du coup, avec le cloud gaming, non, bah non, pas Fortnite, mais théoriquement, du coup, est-ce que tu peux pas mettre le Xbox Game Pass et jouer à un jeu en tactile? Oui, je sais, c'est complètement débile. Non, mais je pense que c'est pas ça les usages intéressants. Les usages intéressants, c'est, tu vas faire ton footing, t'as envie de te passer de ton téléphone, parce que c'est un peu ta bulle d'air, tu vas faire ton footing, quoi. Et en rentrant, tu te dis, tiens, j'aimerais bien me prendre passer chez un resto chinois, par exemple, je sais. Sauf que je sais pas où est-ce qu'il y a des restos chinois dans le quartier. Bon bah voilà, j'ai ma montre qui peut le faire et j'ai pas besoin de repasser par chez moi, et du coup je peux vraiment me détacher de mon téléphone quand je le souhaite et avoir juste ma montre avec moi. Et ça, je trouve ça assez sympa. Après ça reste évidemment gadget et un peu restreint. Je pense que c'est vraiment comme l'explique Geoffroy, hein, très bien, c'est pas quelque chose qui intéressera le grand public. Apple est... voilà, c'était en 2021. Samsung avait déjà lancé ça, ok. Mais il me semble bien que j'avais déjà vu ça sur... Ok. Donc là, il explique un petit peu que bah voilà, c'est quelque chose qui devrait pas intéresser le grand public au long terme, qui sera sûrement pas adopté. C'est fait de la taille des écrans. Après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de montres ultra. Peut-être que au bout d'un moment, Samsung fera aussi une montre très grande. En plus, vu que c'est... je pense que c'est une application qui est sur le Play Store, donc je suppose qu'on peut la télécharger sur n'importe quelle montre Wear OS. Donc là, on touche un petit peu à l'intérêt de Wear OS aussi, je trouve. Le navigateur sur la Watch 4, je l'ai utilisé pour afficher mes cours de maths pendant mes contrôles en terminale. Waouh. Ok. Ça c'est la grosse technique. J'espère que tes profs de l'époque ne lisent pas le chat de Frandroid. Faut juste faire attention à ça. Mais ok. Je vous encourage pas à faire ça, mais effectivement c'est un... Bah non, mais c'est ça, en termes de pense bête, typiquement, tu as une présentation à faire, enfin un truc un peu plus... tu veux te mettre tes notes à ton poignet, hop, voilà, je trouve ça intéressant. Tu vois, tu peux te mettre n'importe quelle application qui passe par un navigateur de notes, et voilà quoi. Oui, aussi j'avais Mario sur ma calculatrice, je cherchais des solutions pour des levels sur le navigateur de ma Watch 4. Ok, ah, c'est pas mal ça. Bah oui, voilà. C'est un peu plus discret que sur un téléphone aussi. Et salut Lord Gibus, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, enfin vu façon de parler. Ti aussi, il fait beau au-dessus de la pluie et des nuages. Toi aussi, il fait... Mais c'est incroyable. Moi, on a un peu de soleil là, on est très très bien. On est très très bien. La pluie, c'est... Il y a eu un tout petit peu de crachin ce matin et on est pas mal. Donc voilà, moi je trouve que le navigateur sur montre, je préfère en fait. C'est un peu ce que disait Manu hier. Pour vous révéler toutes les coulisses de la rédaction, c'est quand même une option en plus. Donc je trouve ça un peu dommage de... Je serais pas du genre à dire c'est pas bien de le faire. C'est bien de le faire, mais il faut pas... Effectivement, c'est pas un truc pour le grand public, c'est juste... C'est une option en plus pour les gens très techos comme Aximilitech par exemple, qui cherchent des solutions pour Mario en cours, typiquement. Des notes au poignet, je suis pas trop convaincu, je suis plus convaincu d'un prompteur au niveau des lunettes connectées. Non, mais tu vois, c'est comme quand t'as tes notes, tu vois, parce que t'as une presse, tu les mets sur ton téléphone, et à la place, tu les as sur un petit truc un peu plus élégant, un peu plus discret, voilà, à voir. Bon, c'est une idée, en vrai j'ai jamais utilisé le truc, donc en fait c'est des usages que j'imagine. J'aimerais bien essayer, en attendant ça m'a réussi, j'ai eu le bac mention très bien. Ah oui, j'espère pas en trichant, parce que là faut vraiment arrêter de raconter ta vie, par contre. Si jamais tu as triché au bac, je veux pas le savoir. Lord Gibus, c'est le Nord. Ah, tu es dans le Nord, Lord Gibus. J'avoue, je sais pas où vous êtes, les habitués. Bah, je pense à ouais, Jinta, Lord Gibus, Aximilitech. D'où que vous êtes, je ne sais plus parler. D'où êtes-vous? D'où que vous êtes? Dans le Nord, Lord Gibus, je savais pas. Bon, bref, passons au prochain sujet. Petit sujet, gros sous. Non, j'ai pas triché au bac MDR. Je l'aurais pas dit en public comme ça. Bah, j'espère bien. Enfin, en tout cas, je préférais te... Voilà. L'Ouest, le Calvados, au nord de Caen. Ah yes, alors du coup, c'était de Caen. Très bien. Bah, j'y ai passé un an. J'aime beaucoup Caen. J'ai cru qu'il y avait Manu derrière moi. À cause de la vidéo, là. Je me suis dit, mais attends, j'ai eu un bug, t'es... Mon dieu. J'ai cru que Manu me faisait un prank. Regardez. Bonjour. Attends, je vais le pousser, parce que ça va me stresser. D'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde comme ça quand t'es allé. Donc Calvados, ok. Très très belle région. Moi j'aime beaucoup. Alors du coup c'est normand. Mais pourquoi t'as... Pour qui t'as parlé du Nord? Je suis au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, d'accord, ok. Et Courcelles sur mer, appelée aussi Juno Beach, plage de débarquement des Canadiens. Courcelles, c'est aussi dans... C'est Calvados aussi, non, me semble. Ah mais c'est ça, c'est l'or... pardon, c'est toujours l'ordre du bus. Ouais, c'est ça, c'est... Ok, bah, je connais, j'ai déjà foutu les pieds. Montreuil sur mer, dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est toi qui es dans le Nord, ok, ok, ok. C'est marrant, Montreuil sur mer. Bah moi je suis de... Enfin j'habite juste à côté de Montreuil, mais à Paris, du coup. Enfin, à côté de Paris. Bref, revenons à nos moutons. Shadow, donc vous connaissez Shadow, je suppose, donc c'est pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, je suis en train de lire l'article, plateforme spécialisée dans le cloud computing, donc grosso modo vous avez un PC en cloud, ce qui permet de, bah, à partir de, on va dire à peu près n'importe quel appareil, d'avoir un PC en cloud puissant, hein, c'est ça le but. Donc c'est pas uniquement pour jouer, ça peut être aussi pour des usages autres, de bureautique, éventuellement professionnel, voilà, donc qui est quand même assez onéreux, comme l'a dit MyGameFR, tout à fait. Et donc, mais qui continue son bout de chemin, donc c'est une startup française au départ, hein, qui a été rachetée par Octave Klaba, donc cofondateur d'OVH Cloud, qui en est aujourd'hui... après j'avoue je découvre l'article, donc ça se trouve il vient de vendre, enfin bref, j'ai pas du tout suivi hier, donc on va découvrir ça ensemble. Donc Shadow et Quant, donc pareil, moteur de recherche respectueux de la vie privée, je sais pas si vous connaissez Quant, donc qui est un moteur de recherche qui vraiment axe toute sa stratégie et sa communication sur le fait de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Ils souhaitent unir leurs forces et ils veulent créer un truc qui s'appelle Symphonium, donc un nom un peu à la française, hein, parce que ça fait un peu symphonie comme ça, moi je l'entends comme ça. Cette nouvelle entité vise à devenir un acteur majeur dans le secteur des technologies en Europe, ok. Oui, ok, d'accord, ok. Hier, on parlait peut-être d'un Google à la France, à l'européenne, ou à la française. C'est un peu toujours le terme qu'on emploie quand on voit des, entre guillemets, des, voilà, des gros acteurs français ou européens se mettre ensemble, on se dit, tiens, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de faire ça. Merci, d'ailleurs, j'ai eu des petits follow, là. Merci Chargos, merci Monsieur Poupou 33, Mister Poupou pardon, pour le follow. N'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez, à dire ce que vous utilisez comme produit tech, ce que vous appréciez, ce que vous lisez sur Frandroid, d'où vous venez, enfin bref, ce que vous voulez. Et comme d'habitude, si ça ne vous dit pas, il n'y a aucune obligation. Simplement, ça fait toujours plaisir de, bah, de vous découvrir. C'est un peu un des intérêts de Twitch. Si Shadow crée le cloud computing, donc d'où l'intérêt d'un PC? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en sous-entends, MyGameFR, pardon. Si Shadow crée le cloud computing, d'où l'intérêt d'un PC? J'ai pas compris. Je veux bien que tu... donc du coup, le fondateur de VH Cloud, Octave Klaba, est en passe de prendre le contrôle du moteur de recherche français. D'accord, ça, il va racheter compte. Je sais pas, main dans la main avec les caisses des dépôts et consignations. Ok, la nouvelle entité qui se nomme Symphonium, donc du coup, il crée une nouvelle entité, est détenue à 75% par Octave Klaba et son frère Miroslav Klaba, et à 25% par la caisse des dépôts. Ok. Cette nouvelle structure a pour objectif de créer une plateforme offrant un accès à ce qui est décrit comme les meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud. Octave Klaba prévoit également de transférer Shadow, spécialisé dans le cloud computing, dans Symphonium. Très bien, ok. Nouvelle plateforme offrant un accès. Pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qu'ils veulent faire, hein, avec ça. Les meilleurs services de collaboration européens basés... Ok, ok. Ah oui, donc, ouais, non, mais c'est juste que Shadow fera partie du consortium un petit peu, enfin du... Ok. Futur géant européen, on pose la question. Le potentiel de cette acquisition réside dans la possibilité d'associer les forces de Quant, un moteur de recherche européen qui se veut respectueux de la vie privée, à celle d'OVH Cloud et Shadow, deux entreprises spécialisées dans les services cloud. Ensemble, elles pourraient proposer des solutions compétitives sur le marché européen, en réponse à la domination des géants américains du secteur comme Google, Amazon et Microsoft. Ok. L'objectif de... Octave Klaba est de créer un portail mettant en valeur les entreprises technologiques européennes les plus performantes destinées au grand public. Le projet s'aligne sur la volonté d'élargir les horizons de Shadow en transformant l'entreprise en une entité dépassant les limites du secteur des jeux vidéo. OVH a quand même de grands clients français. Yes, moi par exemple, star de renommée internationale d'après histoire. Nous dit Ximitech. Shadow est aussi sur mobile, donc d'où l'intérêt d'acheter un PC. Ah oui, donc tu dis que Shadow te permet d'éviter d'acheter un PC. Après, sur le PC, tu peux quand même avoir le clavier, des choses assez pratiques. C'est vrai que tu peux utiliser sur mobile aussi. Et faire un géant du cloud. Je pensais plus à Airbus, etc. Comment ça? Salut Cyrnut. Il y a 2 ans, Octave a acquis la totalité de Shadow lors de sa reprise. Ce plan d'action inclut un investissement de 30 millions d'euros sur une période de 5 ans et un partenariat avec OVH Cloud concernant l'infrastructure sans pour autant appliquer d'échange de capitaux. Donc Octave Klaba, donc on le rappelle, est actuellement propriétaire de Shadow et détient également 70% d'OVH Cloud. La création de Symphonium permettrait également de renforcer l'écosystème technologique européen en offrant des alternatives européennes, c'est très européen, aux consommateurs et aux entreprises. En effet... L'Union européenne est en train de promouvoir l'indépendance numérique et la souveraineté de données, ce qui rend ce partenariat particulièrement intéressant. D'accord, ils s'inscrivent dans une dynamique politique plus large. Ils essaient de faire leur trou là-dedans. Effectivement, c'est vrai que C'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer, et notamment depuis en particulier la guerre en Ukraine, il y a une volonté au niveau européen de, voilà, de relancer un peu ce thème de l'indépendance numérique et la souveraineté des données, la souveraineté tout court, voilà, il y a des enjeux un peu plus stratégiques, et donc ça pousse des acteurs européens. La souveraineté des données, ça date d'avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà des procès, des demandes de stocker les données en Europe, etc. Et aussi depuis le Covid et la pénurie des composants. Tout à fait. Comme le rappelle notre Kassim. Mais j'ai l'impression que ça a pris une nouvelle ampleur avec la guerre en Ukraine. Peut-être juste mon impression. ChatGPT selon Shadow. Je comprends pas. Comment ça tu n'as pas pensé à moi premier? Ok, bouclage de l'accord. Donc c'est pas encore fait, si j'ai bien compris. Ok. Cette acquisition offrirait une perspective d'avenir à Quant qui n'a pas réussi jusqu'à présent à atteindre une part de marché significative, ni établir un modèle économique robuste avec le soutien des cofondateurs de VHCloud et la Caisse des dépôts. Le moteur de recherche pourrait bénéficier de ressources supplémentaires et d'une expertise pour développer de nouvelles stratégies commerciales et gagner en visibilité sur le marché. Ok. On fait le retour des souverains en Europe. Non, c'est juste une idée de... Si tu plutôt que d'avoir recours à des acteurs extérieurs à l'Union européenne, on pousse de plus en plus des géants européens. C'est le cas notamment dans les télécoms depuis 2-3 ans. Donc Huawei par exemple, qui était encore un géant des télécoms en Europe, a de plus en plus de mal à s'imposer. Alors que l'Europe n'était pas particulièrement d'accord avec les États-Unis sur les questions par exemple d'espionnage, etc. Mais simplement, désormais les divers acteurs européens se tournent de plus en plus vers donc c'est Nokia et j'ai plus le nom de l'autre, Ericsson je crois. En tout cas des acteurs plus proches d'eux, européens, pour éviter pour avoir cette comment dire une certaine forme d'indépendance vis-à-vis de l'étranger, voilà. Et je pense que effectivement ce dont on vient de parler là, ça peut s'inscrire dans cette dynamique. Tant qu'ils y sont, pourquoi pas créer un OS pour l'UE? Comment ça, un OS pour l'UE? Un OS de quoi? Un OS indépendance au cas de conflit ou de piratage, exactement. C'est une question de risque, de sécurité. Et en fait, apparemment, la balance du risque, désormais, elle pèse plutôt du côté... Avant, on considérait que c'était pas forcément un risque. Aujourd'hui, on considère que ça peut l'être. Et donc, on se tourne davantage vers des acteurs européens. Il y a une dose d'humour dans mon message, ok. D'ailleurs, Nokia va mieux depuis qu'on se tourne vers lui pour remplacer Huawei. Bah, Nokia va bien au niveau télécom, me semble-t-il. Hein. Je crois qu'ils sont numéro 1 ou numéro 2 en Europe. Après, c'est sur les... En fait, faut pas confondre... Nokia smartphone, Nokia télécom. Et d'ailleurs, sur les télécoms, récemment, on en avait parlé, ils veulent envoyer un réseau 4G sur la Lune. Je crois que c'est 4G, oui, ça. Ils ont des projets à tout bout de champ sur la partie télécom, donc je crois que ça va bien. J'avoue que j'ai pas les chiffres en tête, donc à vérifier, mais je crois que sur cette branche-là, ça va. Sur les smartphones, je pense que c'est plus compliqué, ils passent par HMD maintenant. Leurs téléphones sont pas mal, d'ailleurs, mais ils ont des bonnes idées, notamment un téléphone qu'on peut totalement démonter, qui coûte 200€. Enfin, totalement, non. Donc, tout peut changer, pas mal de pièces, qui coûtent 200 balles, et c'est vrai que pour à ce prix-là, ça reste une belle feature, quoi. Smartphone et PC OS Shadow. Ah oui, d'accord, faire des OS smartphone et PC. C'est vrai que c'est pas bête. Pourquoi pas? Ils ont créé un Apple TV Nokia avec un bon rapport qualité-prix. Shadow, ils ont un équivalent à Apple TV? Ah non, Nokia, pardon. Oui, car il y a encore des plaignants pour la 5G là-haut, quelques martiens rétrogrades. des luniens. Du coup. next, le Flipper Zero. Alors moi je connaissais pas trop ce truc, mais je trouvais ça rigolo comme sujet. Donc c'est un appareil qui est interdit sur Amazon, comme le dit le titre, mais qui est prisé sur TikTok. Donc le Flipper Zero, alors c'est un objet controversé. Ok, ça vient d'une campagne Kickstarter de 2020, c'est vendu 169$, et c'est très populaire sur TikTok apparemment. Le Tamagotchi des hackers, ça ressemble à un jouet pour enfants, mais il a de grandes capacités. Donc là, on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, petite antenne, petite batterie, carte SD, petit écran LCD. Ça y est, il est bien fait, ça y est, elle est bien faite, cette image. Alors, équipé d'une puce ARM très légère, Cortex M4 et Cortex M0+, 1 mégaoctet de mémoire flash, 192Ko de SRAM, cet appareil léger dispose d'un LCD monochrome, ok. Un bouton retour alimenté par une batterie, on vient d'en parler. Il a également donc connectique sans fil comme NFC, émetteur infrarouge, puce RFID, broche GPIO et une clé Dallas High Button. Ça, je sais pas ce que c'est, j'avoue. RFID, NFC, Bluetooth, infrarouge, ok. Il peut lire, copier, émuler des étiquettes RFID et NFC, d'accord. Ok, bah du coup j'ai déjà vu sur TikTok. Je savais pas que c'était interdit sur Amazon. J'étais un jour, je m'étais déjà dit que j'aimerais bien acheter un truc comme ça pour chez moi, pour mettre toutes mes clés sur le même appareil, quoi, et pas m'embêter. Des télécommandes, des clés numériques grâce à son support, des signaux infrarouges autonomes, il peut être connecté à des modules externes via un port GPIO. Entièrement open source, il est toutefois difficile de copier ses fonctions sans connaissance en électronique. Ok. Alors attendez, on va voir. Ah, c'est ça, il a mis par exemple les clés de sa bagnole, je suppose. J'ai un message apparemment. Ah, tu m'étonnes que ce qu'Amazon ait pas envie de mettre les pieds là-dedans. On en a une autre là. Ah zut, attendez. Le Super Zero, ok, il peut cloner des clés d'hôtel sur des systèmes rudimentaires, modifier les prix sur les panneaux d'affichage des stations service sans remplacer les télécommandes. Effectivement, c'est le genre d'outil, si tu sais t'en servir, pardon, il y a l'air d'avoir un gros potentiel. Non, c'est Omar qui est derrière moi. Toutefois, il ne peut pas copier des données NFC chiffrées rendant la copie complète d'une carte bancaire utilisant une technologie NFC impossible. Avec une Tesla, vous n'aurez qu'à ouvrir la trappe à charge, il est possible de compromettre un réseau Wi-Fi moins sécurisé. Néanmoins, cela nécessite l'ajout d'une carte de développement spécifique d'un firmware adapté dans un outil tel que le Wi-Fi Marauder. Autrement dit, il existe de nombreuses autres méthodes pour accomplir la même tâche. Ok. Effectuer des tests de vendeurs de supprimer les annonces. Ok, donc Amazon a demandé aux vendeurs de supprimer les annonces. Le site officiel, par contre, est constamment réapprovisionné. Son objectif principal est d'aider les professionnels de la sécurité et les passionnés de la technologie. Donc c'est un outil polyvalent, fascinant, qui a suscité de nombreuses discussions sur ses capacités, son potentiel malveillant. Ouais, comme beaucoup d'outils, hein, ça dépend ce qu'on en fait. Ça a l'air quand même d'être un petit bijou de technologie. Enfin, je trouve un petit truc comme tout petit comme ça qui fait plein de choses. C'est assez intéressant. Mais en même temps, tu sais t'en servir de manière malveillante. Vous m'avez compris. Bien qu'il puisse être utilisé à des fins douteuses, il est important de souligner pardon, que son objectif principal est d'aider les professionnels de sécurité. Ok. Ah, le but, c'est de mieux comprendre et sécuriser les systèmes qu'on teste. Ok. Bon, voilà. Comme pour tout outil, l'utilisation qui en est faite dépend de l'utilisateur et ses intentions. D'autres appareils comparables existent sur le marché, tels que le Proxmark 3, le HRF. Ok. Et B, il y a tout un écosystème. Enfin, c'est pas un écosystème, il y a tout un marché plutôt. Offre des possibilités éducatives et ludiques pour les passionnés de technologie tout en soulevant des questions sur la sécurité et la responsabilité des utilisateurs. Ok, intéressant. Moi, un peu cher, mais je trouve l'objet super, super intéressant. Moi, j'aimerais bien en avoir un sous la main pour, pour tester plein de trucs, quoi. Ce genre de petits trucs de bidouille super intéressant. Alors, attendez, j'ai loupé des trucs. Déjà, si on peut retrouver des batteries amovibles. Ah, bah, justement. Sur le Nokia donc dont je parlais tout à l'heure, j'ai plus le nom, qui coûte 200 balles et qui est facile à démonter. Vous avez un article sur Fanbroid si vous voulez. On l'a même vu au MWC, on a fait une petite démo pour le démonter, etc. Changer la batterie, ça, alors c'est pas amovible aussi facilement qu'à l'époque, mais ça prend genre 2 minutes quoi. Tu ouvres, tu la débranches. Une fois que tu sais le faire, c'est très 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 rapide. Pour la Lune, on les appelle les Séléniens, d'après un moment. Ah bah oui, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Le truc pour pirater quasi tous les coms autour de toi. Séléné étant la déesse de la Lune dans la mythologie grecque. Eh oui. Une console avec Unisoc Tiger. De quoi vous parlez ? De sa voiture, rien ne le prouve. Ouais, effectivement. Après, je sais pas. Qui a écrit ça ? Ulrich. J'imagine que, connaissant Ulrich, il a dû peut-être tester sur sa propre Tesla. Ou sur une Tesla... Enfin, il a dû tester, quoi. C'est ce que je veux dire. Sa voiture, rien ne le prouve. 169 balles pour des clés, c'est un peu cher. Ouais, mais justement, c'est pas que des clés. Tu peux faire plein de trucs avec, apparemment. Donc, Ouais, mais club de sport dans la cabine, tu peux sûrement, à travers la parole, lire un NFC et copier l'abonnement d'un client pour en bénéficier. Alors, Jibus, Tu as des idées Faut se méfier, hein. C'est un petit filou, comme on dit. Moi, le truc qui m'inquiète, c'est le jour où les voitures connectées n'ont plus de mise à jour de sécurité, l'OS interne égale les villes se feront plus facilement non. Les vols, ok. Il ne faudrait pas demander aux constructeurs combien de temps dure le support comme pour les smartphones où on pose ce genre de questions. Eh ben écoute, Wendigo, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a récemment un constructeur, alors je sais plus qui c'est, je vais essayer de te retrouver ça, qui s'est engagé, je crois, à 15 ans de mise à jour sur la voiture électrique. Je dis ça de mémoire, hein. Volkswagen, voilà. 15 ans de mise à jour Android, Volkswagen fait la leçon à Apple, Google et Samsung. Et donc, tu as tout à fait raison. Et c'est déjà un sujet. C'est de plus en plus un sujet dans la tech, cette question des mises à jour. Heureusement, parce qu'avant je trouve qu'on en parlait pas tant que ça, pas assez en tout cas, et le fait que dès le début en voiture, alors c'est logique, c'est des produits qui coûtent infiniment plus cher qu'un smartphone, qui sont censés durer beaucoup plus longtemps, et on s'engage déjà sur 15 ans de mise à jour. Je sais pas si ça vous paraît suffisant ou pas sur une voiture, je m'y connais pas assez en bagnole, comme ça je trouve que ça a l'air honnête, mais une fois passé 15 ans, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on supprime la voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est encore sur Amazon. Ah ! Le truc là, le flipper. Comment j'ai démonté un smartphone pour la première fois sans rien casser ? Merci notre cassier. Bah voilà, typiquement le Nokia facile à démonter. Attends, par exemple, les clés de mon immeuble, c'est un badge sûrement en NFC, c'est-à-dire qu'un mec peut récupérer ma clé et la cloner. En théorie, moi j'avais vu effectivement une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui faisait ça. Donc en théorie, oui, c'est un des trucs que peut faire cet appareil. On comprend tout de suite la complexité, voilà, sur plan légal. Là, on a quelqu'un qui fait. Attendez, on va voir un autre usage. Quelqu'un qui change le prix des. Alors ça, c'est ouf. Ok. Voilà, là, on entre effectivement dans le hacking et dans. Voilà. En fait, on. Après, ça permet aussi de montrer qu'il y a des faits de sécurité qui sont super problématiques, quoi. Sur une voiture neuve, j'ai envie de dire ça va. Les gens qui achètent des voitures électriques actuellement vont les vendre bien avant 15 ans, non ? Je sais pas. 15 mises à jour, c'est bien car c'est la durée moyenne, je crois, mais ça limite les deuxième et troisième mains. Bah ouais, c'est ça. En fait, pour tout ce qui est occasion, ça va poser des problèmes dans 15 ans. Maintenant, je sais pas combien de temps dure une voiture électrique. Je sais pas si on a le recul là-dessus. Moi, ça me paraît bien, mais effectivement, en fait, le fait qu'on mette de plus en plus d'électronique dans les voitures, ça limite de fait l'intérêt de l'occasion, et je trouve ça un peu dommage parce que la voiture, c'est déjà un énorme polluant. La voiture électrique est censée arranger ça, mais du coup elle crée d'autres difficultés en ajoutant toute l'électronique qu'elle ajoute, et qui est sympa, hein, mais qui du coup ça pose d'autres soucis derrière, et faudrait voir à ce que la voiture électrique devienne pas elle-même, elle sera pas aussi polluante que la voiture thermique, bien sûr, mais que ça finisse pas comme un smartphone ou des choses comme ça, où au bout d'un moment les gens en changent très régulièrement, et où une fois que c'est plus mis à jour, c'est un peu compliqué, quoi. Bref, je sais pas trop où je vais avec ça, mais vous m'avez compris. En gros, on ne peut plus faire confiance à la sécurité de voyage de la voiture passée des 15 ans. Voilà, ça c'est un peu gênant. Jinta trouve que c'est léger. Bah, je suis assez d'accord. Enfin, en gros, je trouve que c'est cool qu'ils s'engagent de base en disant voilà, on a un truc un peu ambitieux, 15 ans, ça reste quand même. Faut pouvoir le dire, quoi. Techniquement, faut pouvoir dire, ok, les puces qu'on a mis à l'intérieur, l'écran, enfin, pas l'écran, mais ouais, les puces qu'on a mis à l'intérieur, la technique, les composants qu'on a mis, pardon, à l'intérieur, je cherchais mes mots, les composants qu'on a mis à l'intérieur sont capables de supporter des mises à jour pendant 15 ans, faut être capable de le faire. Donc ça reste cool, mais ça me paraît un peu, c'est vrai que quand tu regardes, je sais pas, les vieilles bagnoles qui, je sais pas, j'ai déjà eu des voitures d'occasion qui avaient plus de 15 ans, il me semble, hein. Et du coup, elle roulait très bien et tout, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc voilà. Salut LSG Snake. Pas forcément au vu du prix. Ah oui, parce qu'il y a la question du prix tout à fait qui se pose. C'est vrai que 15 ans sur une voiture thermique, pas trop cher, ça va, mais peut-être que 15 ans sur une Volkswagen ultra haut de gamme et tout, ça pose d'autres questions. Tout à fait. La question du prix est importante, tu as raison. Oui, bien sûr, beaucoup de voleurs de colis ou une clé copiée de la poste, dit Lord Jibus. Donc sur le Flipper Zero, on est sur deux sujets en même temps. Ma Titi électrique a déjà plus de 8 ans et tout va bien. Ok. Elle est toujours mise à jour? Comment ça marche? Thanos, j'avoue que c'est un sujet qui est relativement nouveau dans ma veille. Je me pose la question, voilà, des gens qui ont un peu de recul. C'est toujours mis à jour, Thanos. C'est quoi comme c'est pas indiscret? Il serait bien de pouvoir avoir un système OS européen qu'on pourrait installer par-dessus n'importe quelle voiture si le constructeur ne veut plus mettre à jour pour un minimum de sécurité sur nos voitures passer le temps de support. Ça, c'est le grand truc, hein. Les interfaces, parce que c'est toujours c'est Android, l'OS, mais des interfaces.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Custom, qui permettent donc d'allonger la durée de vie des appareils. C'est le grand truc. Je sais que OnePlus, ils sont très, enfin, c'est pas eux qui sont très forts là-dessus, mais la communauté OnePlus est très très forte là-dessus. Il y a beaucoup de ROM custom qui existent sur OnePlus, sur les téléphones, qui permettent, en fait, une fois qu'il est plus mis à jour, de continuer à l'utiliser avec une ROM custom qui va un peu copier Android, l'Android le plus récent. Ça, c'est super cool. Et effectivement, il faudrait ce genre de truc. Je sais pas à quel point c'est facile d'installer un OS sur une voiture, quoi, tu vois. Ça, c'est la grande question. Ma voiture est de 1993. Ah bah voilà. Elle a 29 ans, c'est ça, hein. Waouh. Ouais, bah effectivement, avec les questions de mise à jour que sur 15 ans, on sort un peu de ça, quoi. Salut Raziel SSJ, les batteries sont garanties 10 ans. Donc déjà, il y a 10 ans de tranquillité. Après, la moitié du prix, c'est la batterie, donc au-delà de 10 ans, si tu as un souci de batterie, tu changes. Ouais, du coup, tu racks, quoi. J'ai une voiture de 20 ans qui n'a pas beaucoup roulé et fonctionne encore très bien. Bah voilà, typiquement, ça pareil, ça devient compliqué parce que si la sécu ne suit plus. Ouais. JBC, le principal défaut de la voiture électrique est l'effet Veblen. Passer un nombre d'utilisateurs, l'exploitation des ressources pour les constructeurs devient aussi problématique que la technologie précédente. Ah oui, ok, ouais. Je connaissais pas le nom. Oui, l'effet est connu. Je savais pas que ça avait un nom, merci beaucoup. Je sais pas, il y a des travaux, voilà. Je sais pas si vous les entendez. Intéressant ce que tu dis, JB. En vrai, même sur les thermiques, un impact devrait systématiquement demander une inspection du châssis. Ah oui, parce qu'on était sur la question de l'impact. Il y a toujours des mises à jour, mais c'est plutôt rare. Ok, ok. Ouais, non, mais du coup, c'est bien, c'est encore mise à jour. Ok, ok. Même sur une voiture qui donc a 8 ans. Intéressant. L'exploitation des ressources n'est pas le souci, car elle devient plus rentable qu'un thermique après moins de 100 km. Normalement, mais disons qu'après la suspension et la version. Ok, on a plus de problèmes d'évidence, j'ai que ça. Ça parle de voitures qui ont été créées avant moi. Ouais, vous entendez pas trop, ça va, ok. Ouais, non, mais intéressant, cette histoire de mise à jour. En tout cas, on peut quand même saluer, à ma connaissance, c'est le premier constructeur que je vois s'engager comme ça. Donc voilà, c'est quand même cool. Je préfère ça que d'avoir aucune visibilité là-dessus, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Next, on peut peut-être s'intéresser à ça vite fait. C'est Garmin qui fait.
Je sais pas si vous entendez.
C'est très pratique. c'est des petits cockpits GPS qu'on met sur son vélo, des ordinateurs de bord. Voilà. Donc ça s'appelle les Garmin Edge 540 et 840, cherchez le nom. Ils peuvent se recharger grâce à l'énergie solaire. Ok, donc quand je parle, tout va bien. Merci Victoria, du 60. Oui, à 30 ans, ma voiture passe en collection. En gros, l'assurance tout risque me coûtera quasiment rien à l'année. Quelque chose comme 75-100 €, c'est une honte. EG5 avec un VTEC turbo très puissant. Oh, j'y connais rien en voiture, moi, j'avoue. Ouais, ça perce à côté, ouais. Et puis il y a des petits coups de marteau ou je sais pas quoi, de masse peut-être. Ça se trouve, il y a un mec qui va débarquer, t'es en plein live. tu t'es mis au full vélo, Wendigo. Bah écoute, tu as bien raison et je trinque avec toi. Voilà. Car je suis dans le même cas depuis pas très longtemps, mais vive le full vélo. JBC, Wendigo, donc on est sur l'histoire, donc c'est l'effet Veblen, très intéressant, qui dit que passer un certain nombre d'utilisateurs, l'exploitation des ressources pour les constructeurs devient aussi problématique que la technologie précédente. Il y avait Wendigo qui disait l'exploitation des ressources, c'est pas vraiment le souci puisque ça devient plus rentable qu'une thermique après un certain nombre de kilomètres. On va pas forcément s'attarder sur le chiffre, peu importe. Et JBC dit pour l'émission de CO2, oui. Mais l'impact environnemental global se détériore très rapidement à partir d'un certain seuil de production. C'est vrai, mais la question du CO2 est quand même tellement cruciale que si on peut gagner là-dessus et éviter d'aller dans le mur, ça reste intéressant, je pense. Et après, les impacts en CO2, en fait, sont des équivalents CO2. Oh, ça parle bagnole dur, là.
Oh, les 660 chevaux, je suppose.
Je vous imagine avec la clé à molette et tout, genre.
Ouais,
ça, c'est... Ça marche, ça roule. Écoutez, on va parler vélo en attendant avec Wendigo. donc du coup, vous connaissez Garmin, qui est quand même une référence en matière de monde connecté. Et donc ils ont aussi des ordinateurs de bord pour les cyclistes. Ils viennent de sortir donc les Garmin Edge 540-840. Donc ils ont pas mal de fonctionnalités. Ok, c'est plutôt pour les pratiquants de VTT ou de gravel et même de vélo de route. Donc un peu tout en fait, hein, de ce qu'on prend en mécanique ou en électrique. Ok. Leur principale différence se situe au niveau de leur écran couleur de 2,6 pouces. L'Edge 540, il est non tactile. Le 840 l'est. Ok. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux apparemment. Dans les deux cas, il y a une version Solar qui est disponible à l'achat, qui peut recharger le cockpit, là ça envoie de la perceuse, pour maximiser son autonomie de 26 heures en usage intensif ou 42 heures en mode économie d'énergie. Donc ça peut prolonger l'autonomie jusqu'à 60 heures selon le communiqué de presse, très bien. Donc ça peut permettre de faire plusieurs sorties dans le même week-end sans trop se préoccuper de la batterie, effectivement, condition qu'il y a un peu de soleil, j'imagine. Donc ils peuvent générer pas mal de données. Le nombre de sauts, là ou encore la distance d'un saut pour les vététistes de montagne. Ah, c'est marrant. Le binôme a par ailleurs accès à l'immense base de données Trail Fork qui regroupe près de 300 000 sentiers dans le monde. Donc ouais, du coup, t'as un côté avec ta carte, c'est ça. Donc tu peux visualiser un itinéraire prédéfini pour te laisser guider. Très bien, très bien. Ça, c'est cool, hein. Franchement, belle bête. Ah, par contre, ça, j'avais pas vu le prix. Ça calme un peu. Système GNSS multiband est aussi au menu. Ok. Ils sont très très forts normalement en positionnement précis par satellite. Garmin en général, c'est très très propre. Voilà, une zone densément boisée ne leur posera aucun problème pour vous repérer, explique Garmin. Et en vrai, sur leur montre, c'est, je crois, un peu le cas déjà. Voilà. Chaque cockpit fournit par ailleurs du coaching adapté via des suggestions d'entraînement et une fonction de votre récupération ou d'événements sportifs. Après, c'est les classiques, la VO2 max, le niveau d'effort en temps réel sont bien évidemment mises, tout comme la détection de chute. Très bien. Ça a l'air très complet. La communiqué de presse officielle ne mentionne que des prix en dollars. Ah oui, donc ce sera peut-être encore plus cher chez nous. 449 ou 549 pour le non tactile et pour le tactile. Attendez. Ah non, ok. Donc le non tactile c'est 449, le tactile c'est 549. Et en non solaire, donc si vous voulez vous passer du solaire, ce qui est quand même un des intérêts principaux, j'ai l'impression, de ce produit, 349, 449. Aucune disponibilité française n'est indiquée pour le moment. Oh, ça sortira chez nous quand même, je suppose. Bon, en tout cas, un petit objet intéressant. Le bouc, la clé à molette, un Marcel et une caisse raciste dans la main. Ouais, c'est ça. 125 chevaux. Titon, je te rassure, je suis aussi calé en voiture que toi. J'ai appris sur le tas quand j'ai cherché ma voiture à l'époque, mais je suis incapable de la réparer. Heureusement, j'ai des amis qui peuvent mettre la main dedans. Intérêt des voitures vieilles comme les miennes, tu peux les bricoler sans passer par le garage, effectivement. Ouais, puis t'as un peu d'historique, souvent tu vas avoir des pièces et tout. Moi j'ai une conso très minime, une autonomie super sympa, c'est pour ça que je préférais le G5 à le G6 qui était en 60 chevaux. Ok. T'inquiète, parle normalement, on t'entend bien. Ouais, mais tu sais, c'est naturel, t'entends du bruit et t'as envie de parler plus fort quoi. Garmin met du double band sur ses montres. Oui, tout à fait, pour le GNSS. Les prix sont toujours. Ouais, Garmin, c'est. Ça tape, hein, niveau tarif. Il devrait miser sur des écrans E-Ink qui consomment moins car le FPS n'est pas recherché là-dessus. Avec un ou deux FPS, c'est largement suffisant, c'est vrai. Pour celles et ceux qui ont peur de l'inconnu, la société révolte sur les batteries en rechangeant les cellules et ou pack de cellules des voitures mortes pour un prix autour de 1500 et 2000 euros. Effectivement, ça paraît peu cher, mais du coup, j'imagine que doit y avoir un niveau qualité, ça doit être 1 euro égale 1,09$. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça lors du bus, car il y a tout le temps il y a souvent des taxes au passage qui font qu'en fait le prix est beaucoup plus élevé. C'est pas juste une petite conversion ou des frais d'import ou des choses. Intelligence artificielle, nouveau match, c'est pas toujours le cas, hein, je précise, mais c'est malheureusement souvent le cas. On a fait un petit article pour rappeler que bah on a un gros match qui s'annonce entre Google et Microsoft sur l'IA en mai et juin. En mai, et il y aura Apple en juin également. Mais un peu moins sur l'IA, je pense. En tout cas, voilà, il y a pas mal de conférences qui arrivent en mai et juin, et donc il y a un gros match qui arrive, en particulier sur l'intelligence artificielle, entre Microsoft et Google, qui sont vraiment en train de se tirer la bourre sur ce sujet. Donc on a la Google I.O. qui est prévue le 10 mai, et on a le 23 mai à Seattle, la conférence Build de Microsoft, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Comme dirait le poète, les esprits s'échauffent de plusieurs mois, nanana. Donc on voit vraiment que Bing en fait remet pour la première fois en question l'hégémonie de Google, alors qu'on s'est moqué pendant des années. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, il semble être un peu en avance. Donc on va voir ce que va répondre Google le 10 mai, hein, ça va beaucoup dépendre de ça. Google est bien sur le pied de guerre pour le sujet de l'IA à bras le corps. Depuis plusieurs mois, ça tend à une grande démonstration de force lors de la conférence Google I.O. prévue le 10 mai. Tout à fait. Une conférence Build. Et donc la conférence Build devrait elle aussi... les sujets ils sont déjà connus, tourneront autour de l'IA de Windows, ok. Sera l'occasion pour Microsoft de convaincre ses clients et entreprises et développeurs de sauter dans le train de l'IA à travers Microsoft 365, ou dans laquelle ils ont déjà intégré pas mal de trucs, ou les différents services que la firme lance depuis quelques semaines. On peut également s'attendre à la présentation des mises à jour pour Windows, notamment la version ARM, qu'on attend de pied ferme, système d'exploitation. Comme s'il s'agit d'une conférence dédiée aux développeurs, il s'agit surtout d'un moment pour Microsoft de faire la démonstration d'une unité autour du Microsoft Store, l'idée de pousser les développeurs à adopter les nouveaux outils de la firme pour atteindre une plus grande clientèle. Windows 12, c'est encore trop tôt, nous dit Cassim. En revanche, Microsoft pourrait une nouvelle fois présenter des outils assistés par GPT, car pour rappel, Bing donc fonctionne sous GPT-4, pardon, ce qui n'est pas le cas. Donc Google, eux, n'ont pas de partenariat avec OpenAI, et donc ils ne peuvent pas utiliser GPT, ils développent leur propre IA qui s'appelle Bard. Voilà, pour le tour de ce combat à venir. Bing est toujours aussi nul, IA ou pas, il faudrait améliorer le moteur de recherche en plus de l'intégration des IA. C'est vrai que le moteur de recherche reste en deçà, même si j'ai bien compris. Leur IA, donc je sais pas comment l'appeler, Bing, le nouveau Bing, je crois qu'il l'appelle comme ça, est capable de rechercher sur internet, si je dis pas de bêtises, et du coup ça peut tout de suite être beaucoup plus intéressant quoi. Les conférences, donc la Google I.O. c'est sur le campus de Google, donc aux États-Unis, en Californie. Et Microsoft c'est à Seattle, donc les deux sont aux USA, et on suivra ça de près. Bien sûr. On va parler un peu de smartphone quand même, parce que c'est un peu mon dada. vous le savez. Merci d'ailleurs, j'ai loupé un follow. Merci Greg Falduto pour le follow. N'hésite pas, comme tout le monde, à te présenter, à nous dire ce que tu préfères lire sur Fandroid, quels sont les objets tech que tu utilises en ce moment, que tu aimes bien, que tu affectionnes, d'où est-ce que tu viens. Bref, à te présenter autant que tu le peux, tu es le bienvenu pour le faire. C'est un peu la petite tradition. Je veux éviter le sujet Elon Musk, ouais. J'en ai marre de Twitter. Non, j'avais envie de parler de téléphone un peu. C'est toi qui l'as écrit, c'est ça? Ouais, raison de plus de ne pas en parler. Voilà, voilà. je plaisante, hein, je précise. Hein, on va en parler après, mais là, je sais pas, vu que ça avance un peu, j'ai quand même envie de parler de ça. Ça tire dès le matin, ouais, ça tire à balles réelles. Ça se paye. C'est mon voisin de bureau en plus, donc ça va être journée de merde là, à venir. Si l'Oppo Phoenix 5 Pro ne sort pas en France, nous le regretterons amèrement selon DxOMark. Ouais, il y avait un Shiba à un moment à la plateau Google. C'est pour ça que j'en ai marre de Twitter. Voilà, c'est trop n'importe quoi, faut arrêter là. Donc Oppo, vous avez sûrement suivi. Je suis déjà au bureau là, donc il est pas très loin. Si s'il veut venir faire un coucou, il peut. Fais le live, Kassim. Ça fera des clips pour TikTok. Donc Oppo est un peu en difficulté a priori, et donc ils ont décidé. Enfin, c'est pas encore officiel, mais la rumeur veut que l'Oppo Phoenix 6 Pro ne sorte pas en France. Quand je dis que c'est pas officiel, c'est la réalité. Hein, c'est-à-dire que vraiment ils n'ont vraiment pas communiqué là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut travailler Bon, vas-y. Frappe-moi. Ça reste entre nous. Hein. Et oui, c'était Kassim. En direct live des studios de Frandroid. Je pense qu'il verra vos coucous en revenant à son bureau. L'étoile montante du streaming, bien sûr, Kassim. Vous l'avez sans doute vu chez Gotoz. Récemment, il a écrit un article sur YouTube qui a été repris chez France Inter. Voilà. On ne l'arrête plus. Le mec passe plus les portes, quoi. C'est vraiment. J'arrive pas à reprendre mon article. Le sérieux qu'on avait jusqu'ici, c'est définitivement volé. Je ne vous félicite pas. Donc Oppo, c'est un peu compliqué. Et donc, a priori, l'Oppo Phoenix 6 Pro ne sortirait pas chez nous. Et donc, on a écrit un petit article hier pour dire. Oui, j'aimerais bien parler smartphone un petit peu, quoi. Je suis un peu payé pour ça, quoi. Non. Et c'est un peu triste, quel guigne, comme je l'ai écrit ici, car il obtient tout simplement la meilleure note en photo de DxOMark. Donc DxOMark, pour rappel, ils testent de manière très scientifique les téléphones, et ils sont un peu tatillons, et donc le Phoenix 6 Pro, qu'a priori on n'aura pas entre les mains, est tout simplement premier de ce classement, donc c'est vraiment une raison de plus de regretter le possible choix hein, le possible choix de la joie du direct, tout à fait, le possible choix de d'Oppo. On espère quand même que en fait qu'on s'est trompé, que la rumeur s'est trompée et qu'en fait il sortira. Après, ce serait pas totalement étonnant, ce serait pas les premiers à le faire, comme je l'explique un peu plus bas. On a vu par exemple le Xiaomi 12 US Ultra ne pas sortir chez nous l'année dernière, et ça arrive de plus en plus souvent qu'il y ait des flagships qui sautent un peu une année. On peut citer par exemple le Vivo X70 et X70 Pro de Vivo, donc qui n'est jamais arrivé chez nous. C'est quelque chose qui est assez courant chez les marques chinoises. Elles se ménagent un petit peu la possibilité de sortir ou pas les téléphones. DxOMark, c'est cool pour la technique, pas pour de l'humain. En fait, je suis assez d'accord. Après, ça montre quand même les capacités du téléphone. Ceci étant, quand tu fais un test à l'aveugle, systématiquement Samsung l'emporte. Donc en fait, il y a quand même une différence entre les yeux, on va dire, du grand public et les yeux de spécialistes comme DxOMark. Mais ça, je pense qu'ils en ont conscience. Hein, je veux dire, DxOMark, c'est le seul test extérieur que tu peux refaire avec ton smart en te promener sur Paris. Ah, ils vont au Centre Pompidou, j'avais jamais fait gaffe, c'est marrant. Donc voilà, écoutez, l'Oppo Phoenix 6 Pro, c'est un peu triste quand même, mais bon. C'est ainsi. Ce sont des mesures techniques. Il y a un peu des deux, en fait. Oui, il y a des mesures techniques, mais si tu lis leur rapport dans le détail, il y a quand même une interprétation de leur part. Alors, bien sûr, qui est basée sur des mesures techniques, mais de temps en temps, ils se permettent aussi quand même de... Comment dire, leur protocole et leur rapport qui sont donc transmis à la presse, etc., ils essayent de rendre ça un peu plus humain, un peu plus proche des usages des gens. Et je trouve que... voilà, on n'est pas juste dans on met ça dans un ordinateur, sa mesure est terminée et on vous sort la mesure. Il y a aussi une interprétation, ils essaient de un petit peu de rendre ça plus compréhensible pour le commun des mortels, et ce faisant, on se rapproche, on voit quand même un peu leurs critères qui sont quand même très très ardus, mais voilà. C'est normal, Samsung, ce sont les meilleurs, nous dit Victoria du 60. Eh bien, je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui sera d'accord avec toi, n'est-ce pas, AximiliTech? Je plaisante, hein. Je sais que tu n'es pas fan de Samsung, j'ai bien compris. Après, leurs tests sont béton pour faire de la comparaison. Mais clairement, en fait, c'est ça, c'est tout l'intérêt de l'article qu'on a fait sur Oppo Phoenix 6 Pro. On sait qu'ils sont très très exigeants, et du coup, quand ils mettent un téléphone très très haut, on se dit quand même, bon, c'est du sérieux, ça reste impressionnant, voilà, dans l'échelle de DxOMark, d'avoir un téléphone qui dépasse les autres. Voilà. Ils devraient me payer pour toute la pub positive que je leur fais. Ah ouais, Victoria, tu es du genre à communiquer énormément sur... Je vois très bien. Oui, bah c'est ça, quand on aime une marque, on est leurs premiers ambassadeurs, finalement. Les vélos électriques ne sont jamais autant vendus, sachez-le. Selon l'Union Sport et Cycle qui a publié son observatoire du cycle en 2022, on a une flopée de chiffres intéressants. Donc c'est en hausse de 7% par rapport à 2021, le chiffre d'affaires du marché du vélo. Dans le monde entier, si j'ai bien compris. 2,37 milliards d'euros. C'est dans le monde entier ou pas? Attendez. J'arrive pas à déterminer. Si vous ajoutez l'univers des pièces et accessoires, c'est bon, passe à 5,2% pour un total de 3,6 milliards d'euros. Des chiffres extrêmes. Vu le chiffre, ça me paraît. Je ne sais pas. Je poserai la question à l'ami Grégoire. Il assure que le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France. Ce succès est en partie dû au vélo électrique qui décroche un nouveau record de vente, 738 000, soit une augmentation de 12% pardon, par rapport à 2021. Donc, désormais, le vélo a quasiment rattrapé la trottinette, c'est ça? Les VAE, je sais pas qui a rattrapé qui en fait, les deux sont à peu près au même niveau. Les VAE de leur côté représentent 28% des volumes de vente relatifs au marché du cycle pour environ 2,6 milliards de vélos vendus. Ce n'est un secret pour personne, un vélo électrique coûte plus cher qu'un vélo mécanique en cause de la présence d'un moteur, nanana, ok. C'est pas étonnant que les VAE correspondent à 61% du marché en valeur, logique. Leur prix moyen est d'ailleurs 4 fois plus élevé, très intéressant ça aussi, qu'un cycle musculaire. En moyenne, donc les gens payent 1965€ pour un vélo électrique contre 489€ pour un vélo musculaire. Le tarif moyen d'un vélo en France, qu'il soit électrique ou mécanique, atteint quant à lui les 916€, on est à peu près, on se rapproche on va dire du milieu. On n'y est pas exactement, mais... L'observatoire du cycle s'attarde aussi sur le succès de tel ou tel segment, et il est ainsi fort intéressant de voir les vélos cargo exploser à hauteur de 96%. Wouh ! Avec des ventes atteignant les 33 000 modèles en centre-ville, cette catégorie de vélos est de plus en plus présente, que ce soit des longues tailles pour les familles, que des biporteurs et des porteurs pour les professionnels. Ok, très intéressant aussi. On va faire Twitter, sinon Cassim va revenir. On veut... Un tel qui fait tel type de photo, on peut voir les tests de DxOMark pour savoir lequel choisir. Ça, c'est vrai. Il faut pas aimer une marque, mais il faut aimer les produits qu'on achète. Ça évite d'être tenté de le changer s'il couvre nos besoins déjà. En France, dit Jinta, 2,6 milliards, ça fait beaucoup. Les cargos sont hors de prix. Comment tu as la réponse, Jinta? C'est dans l'article, je l'ai loupé? Bon, c'est pas grave. J'ai du mal à déterminer, en fait. C'est vrai que le chiffre paraît pas énorme pour le monde, donc j'aurais dit France, effectivement. Mais ça me paraît gros, quand même. J'aimerais m'en payer un, mais les aides de l'État sont inaccessibles. Faut déclarer un revenu référent de 14 000 euros, même au SMIC, on dépasse ça à ce niveau de revenu, on ne cherche pas à acheter un vélo cargo. Alors, si je me trompe pas, Wendigo, c'est pas le cas. Le revenu référent, c'est pour ta commune, et du coup, il faut que tu fasses la demande à ta commune va te le refuser si tu es au-dessus de 14 000, ce qui est fort possible, parce qu'il y a très peu de gens qui sont en dessous. Et ensuite, tu peux te tourner vers ta région. C'est dans l'article, okay, bah, j'ai juste loupé, merci Jinta. My bad. J'ai lu un peu vite. Je vais faire France, contrôle F. Il y a pas de contrôle F sur ce... En fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'au niveau d'où il donne les chiffres, il n'y a pas écrit France. C'est écrit plus tard. Donc c'est sous-entendu, mais du coup, ok. Je suis un peu relou. Dans ma région, je n'ai pas d'aide. Il n'y a pas d'aide dans la région centre. Ah, ça par contre, c'est... Quelle guigne! C'est bien dommage. Ok. Mais non, mais Jinta, tu as raison. Je pense que c'est en France, effectivement. Je demanderai confirmation au chef des vélos. Ce nouveau réseau social fait paniquer Elon Musk sur Twitter. La plateforme Substack a lancé sa fonction Note permettant de concurrencer Twitter. Elon Musk a tenté de bloquer maladroitement la popularité de Substack en limitant sa présence sur Twitter. Bah, écoutez, vu que j'en ai marre de Twitter, je vais peut-être aller sur Substack. D'autant que ça a l'air d'embêter le patron en chef. Depuis le rachat Twitter par Elon Musk, les utilisateurs mécontents se cherchent une alternative dirigée par quelqu'un de plus sérieux. Blah! Il faut dire que Twitter est un réseau social particulièrement important pour l'actualité politique. L'actualité et la politique, pardon. Malheureusement, aucune alternative n'est parvenue à décoller. Substack Note, un nouveau concurrent qui terrifie Elon Musk. Substack est d'origine un outil de newsletter permettant d'écrire du contenu en ligne et l'envoyer automatiquement à ses abonnés. La plateforme a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de Substack Note, une nouvelle fonction permettant d'émuler le fonctionnement de Twitter. On retrouve une timeline, des likes, des abonnements, des possibilités de restack, partager une note dans son propre flux. C'est sans doute ce qui fait peur à Elon Musk, le milliardaire a une nouvelle fois suragi dans la précipitation, limitant la. Ça date de quelques jours cette histoire de bloquer. Donc il a bloqué les posts vers Substack sur Twitter. C'était impossible de les liker ou de les partager, ce qui est... C'est incroyable qu'on puisse faire ça, quoi. Voilà. Difficile de prédire l'avenir de Substack, note après les échecs des autres concurrents. Contrairement aux autres alternatives, Substack a le mérite d'avoir déjà accès à un groupe d'auteurs et de journalistes dans le monde qui vont rapidement pouvoir adopter l'outil. Substack note est toutefois encore une fonction secondaire d'une plateforme avant tout dédiée à l'écriture de longs papiers. La fonction n'a pas le droit à son système dédié, encore moins une application mobile sur mesure comme peut le proposer Twitter, ce qui fait la force de Zooblue aussi, son accessibilité et son instantanéité qui ont convaincu notamment les influenceurs dans le passé. Tout cela rend la panique d'Elon Musk un peu risible, Twitter est encore loin d'être mis en danger par ses concurrents, par la gestion de l'entreprise. En revanche, très bonne chute, je suis d'accord. On va se faire un petit dernier, ça c'est Aximilitech, la star, on en a parlé. D'ailleurs, Greg stream cette semaine, excellente question, je peux regarder ça vite fait. Je vois que Greg a ses fans, oui, parce que normalement, le mercredi c'est lui, hein, c'est ça. Là vous l'attendez comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, pour citer le poète. Le lien pour ceux qui sont intéressés pour l'aide de l'État. Ah bah merci Wendigo. Le bonus est de 400€ maximum ou 40% du prix pour acheter un vélo neuf électrique si votre revenu fiscal de référence part inférieur ou égal à 6 358€ si vous êtes en situation de handicap. Si votre revenu fiscal de référence à part est compris entre... Ah ! Mais c'est nouveau ça ! Ça c'est nouveau je crois Wendigo. Hein. Ah, très intéressant. On attend comme net Messi. Je comprends. Il a ce truc un peu messianique. Lara Fabian, merci beaucoup. Ah bah voilà. Merci Kassim. Putain mais Kassim, bravo. Hein. Bravo. On attend le retour de ces Marcel maintenant que les beaux jours arrivent. Je suis d'accord. Moi aussi. Ça fait tellement l'identité de cette chaîne. C'est une vision de la concurrence très protectionniste. Bah oui. Non, mais cette histoire de bonus là, c'est nouveau, il me semble. Parce qu'avant, c'est nouveau les 400€ là. Ça, c'est nouveau. C'est pas encore appliqué. C'est à partir du 20 avril. Donc si vous voulez acheter un vélo, c'est maintenant. En tout cas, avec l'aide de 500€. Et cette histoire de donc, plafonner à 300€ au-dessus d'un certain revenu, c'est étonnant ça. Si vous entendez le... On va aller dépiauter ça. Étonnant. Allez, on va se terminer avec Xiaomi 13 Ultra. On va se terminer ce live. Pardonnez-moi. Ça fait une petite musique. Ouais, donc vous l'entendez. Ok. Écoutez, ça fait partie du folklore, désormais. C'est extraordinaire. Donc le Xiaomi 13 Ultra, on a eu les premiers rendus du téléphone. Donc haut de gamme de Xiaomi. Il ressemblerait donc à ça. Je sais pas ce que vous en pensez comme ça à première vue. Je vais vous mettre une autre vue, celle-ci, je la trouve pas mal. Pour rappel, il est prévu pour sortir en France, ce qui fait plaisir. Tandis que le 12S Ultra l'année dernière, on ne l'avait pas eu. Donc là, le 13 Ultra sortirait bien en France. Il sortira, il me semble que ça a été confirmé, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ça semble sentir bon pour cette année. Et un des trucs que j'ai trouvé intéressant, c'est regardez, il y a une petite pente là, une petite montée ici là. À cet endroit-là, je sais pas si vous voyez ma souris, oui. Ce qui va permettre, je pense, en théorie, d'aider à l'appréhension, mais qui va aussi faire un téléphone méga épais. De mémoire, il dépasse les 9 mm. 9,57 mm d'épaisseur, vous imaginez? Le monstre. Voilà, on a également un bloc photo assez clean, assez... je n'arrive plus à parler en fin de live. Assez clean, assez... alors, il est très visible, mais je trouve que voilà, il en fait pas des caisses non plus. On a des bordures très 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 fines tout autour. On a un écran incurvé. On a pour autant des tranches plates, malgré l'écran incurvé. Voilà. Donc, c'est à peu près... Là, on a un peu les specs. Donc, classique, après, un 6,7 pouces, QHD. Donc, tout ça, ce sont des specs pas du tout confirmés, hein, je précise. Une batterie qui montrait à 4900 mAh. Une charge de 90 watts. Voilà, et puis des dimensions assez généreuses. Et là, on a les prix qui ont fuité également, les prix en Chine. Pour rappel, comme on le disait tout à l'heure, il y a moyen que ce soit pas du tout les prix qu'on a en Europe, hein, parce que ce sont des prix hors taxes. Et ensuite, il y a le prix de l'importation. Ouais, je suis d'accord avec toi, Wendigo, le revenu de référence, il me paraît très très bas. À quel moment tu peux mettre 1000 balles? T'as même pas la trésorerie d'avancer le temps d'attendre ta subvention, quoi. Donc, non, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, le cyberphone, c'est vrai, on pourrait l'appeler comme ça. Ouais, c'est vrai, mais il a un petit look, hein, moi je trouve. Bon, voilà, en photo, ça promet quand même capteur 1 pouce a priori. On a 4 modules photo. Ici, donc, comment on appelle ça? Un téléphone. Bref, vous avez compris. Un zoom qui promet d'être assez important. J'ai plus le terme en tête. Je pense donc un ultra grand angle, un grand angle et peut-être un x3, quelque chose comme ça, x5, je ne sais pas. Non, je cherche l'autre terme, pas téléobjectif. Ah, c'est pas grave. Bon, on va dire téléobjectif, ce sera plus simple. La charge sans fil est plus rapide que ma charge filaire. Et oui, au bout d'un moment. Oui, il n'y a pas de zoom, ouais, tout à fait. Ça dépend, il y a des smartphones maintenant qui ont un zoom, chez Sony notamment. Il est tout petit, mais il existe. Ouais, c'est un téléobjectif, mais je cherchais le. Ah, ça, bon, c'est pas grave. Je ne le retrouve pas. C'est terrible quand tu trouves pas un mot comme ça. Périscope, merci. Parce que là, vu le look, ça semble en être un. Parce que parfois, vous avez pas forcément un système périscope sur ce qu'on appelle un... Nous, on va dire téléobjectif pour aller vite. Mais en fait, voilà. Il faudra que tu files choper un casque à réduction de bruit chez Geoffroy tout à l'heure. Tu as raison, tiens. En plus, il en teste des sympas des fois. Des petits écouteurs et tout. Bon, voilà. Donc, ça a l'air pas mal, moi, je trouve. De toute façon... Il est attendu pour le 18 avril. Il serait présenté le 18 avril très très bientôt. Là, on est le 12, donc d'ici 6 jours, si la rumeur est vraie, on devrait en savoir plus. Voilà, je crois que c'est tout pour ce live. C'était très agréable. Merci beaucoup, une fois encore. Une fois n'est pas coutume d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et en la compagnie de Cassim, le sémillant Cassim, et des gens des travaux. Merci à eux pour ce featuring extraordinaire. moi je vous dis bah écoutez à très très vite sur Frandroid, sur notamment plutôt sur le site dans les jours à venir. Je vais pas être sur Twitch ni sur YouTube, je vais me faire un peu plus discret, je vais laisser la place à d'autres talents et merci beaucoup, bon courage pour tous ceux qui bossent, bon repos pour tous ceux qui se reposent et à très très vite, à très bientôt en cette journée semi-pluvieuse, semi-ensoleillée, des poutous, à bientôt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.